Vous écoutez RTL.
Et le premier invité d'RTL Soir, c'est le PDG d'Orange. Bonsoir Stéphane Richard.
Bonsoir.
Le conseil d'administration vous a renouvelé à la tête d'Orange pour la troisième fois, un record. Il ne reste plus que la validation de ce choix en Assemblée Générale le 4 mai. J'imagine que c'est une satisfaction.
Oui, c'est une grande satisfaction. D'abord pour le travail accompli.
Ouais.
Pour l'équipe qui m'entoure, au-delà de moi, pour les 155 000 salariés du groupe. Oui, c'est une grande satisfaction et aussi, bien sûr, beaucoup d'ambition pour l'avenir.
On y vient dans un instant, c'est ce qui va nous intéresser. Au départ, on se disait que vous n'étiez pas forcément Macron compatible. Vous avez été nommé par Nicolas Sarkozy, renommé par François Hollande. Qu'est-ce qui a fait la différence?
Je pense que c'est la qualité du bilan. J'espère que c'est aussi la pertinence du projet que j'ai proposé. Vous savez, je crois qu'il faut se méfier un peu des rumeurs qui peuvent circuler sur les uns et sur les autres. La preuve, c'est que, vous l'avez dit vous-même, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, c'est des hommes que je connais bien, que je respecte pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ce qui compte avant tout, c'est Orange, mon travail à la tête d'Orange et la feuille de route d'Orange.
Un mot, la seule ombre au tableau, c'est ce renvoi en correctionnel pour complicité de détournement de fonds publics et escroquerie dans l'affaire Tapie, au moment où vous étiez collaborateur de Christine Lagarde. Pour le moment, la date du procès n'est pas connue. Si vous êtes condamné, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous démissionnez?
Écoutez, pour l'instant, on va attendre ce procès.
Moi, je l'attends avec
une certaine impatience, parce que ça sera enfin l'occasion de tout mettre sur la table et de s'expliquer sur ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Moi, vous le savez, je clame mon innocence depuis le départ. Donc, j'espère qu'elle sera reconnue lors de ce procès.
Mais comme Mathieu Gallet à la tête de Radio France, lui, c'était une radio totalement publique. Vous, c'est 23% simplement public. Mais si jamais il y avait un pépin, la justice étant la justice, est-ce que vous partez?
L'engagement que j'ai pris est tout à fait clair. C'est que le jour où il y a une décision de justice me concernant, je réunirai immédiatement le conseil d'administration. Je remettrai mon mandat à la disposition du conseil. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet.
Vous parlez donc de votre bilan, mais également de ce que sera votre mandat. C'est quoi les objectifs? Emmanuel Macron a promis l'Internet rapide pour tous en 2020, la fin des zones blanches. C'est ça l'immense chantier?
C'est un des immenses chantiers. Vous savez, Orange est une entreprise mondiale. Bien sûr, la France est très importante, mais on est présent dans beaucoup d'autres pays.
L'Afrique, vous avez développé.
Il y a beaucoup de pays en Europe, il y a l'Espagne, on réussit très bien. En France, c'est clair que la première attente sur nous, c'est le déploiement du très haut débit. D'abord, c'est la fibre optique, qui est un chantier énorme dans lequel on est totalement engagé. Et à l'horizon dont on parle, 2021-2022,
donc demain,
on aura fait l'essentiel de ce déploiement. La France sera un pays particulièrement avancé dans le monde, de ce point de vue, il faut quand même le dire. La couverture des zones blanches, oui, effectivement, on s'engage à fond là-dedans. Il y aura des progrès très importants d'ici à 2020-2021, ça ne sera pas fini. Mais c'est vrai que c'est une attente très forte sur l'entreprise dont on est bien conscient.
L'arrivée de la 5G,
ça va se passer aussi autour de 2020-2021.
Pendant votre mandat précédent, vous avez développé notamment Orange Bank, il y a également Orange Cyber Défense, Orange Healthcare. Il y aura ce type de projet dans votre nouveau mandat?
Oui, vous savez, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas se contenter simplement d'être un fournisseur de connectivité, un opérateur de réseau. Il faut qu'on rentre complètement dans le monde des services qui sont bouleversés par le digital. On ne doit pas laisser ce champ libre aux GAFA ou aux start-up. On a aussi un vrai rôle à jouer.
Mais au-delà des banques, au-delà de la cyberdéfense, healthcare, il y a quoi d'autre comme service potentiel?
Il y a tout l'univers de la maison. Vous savez, la maison, elle est en train de se digitaliser complètement. Tout ce qu'on fait dans la maison, les objets connectés, les contenus, mais même les métiers de sécurité, par exemple. Donc cet univers de la maison, à l'heure du digital, c'est un univers naturel pour nous. On a beaucoup de choses à y faire, certainement.
Est-ce que vous craignez, pendant votre mandat, que Orange, que l'État se désengage, elle possède 23% d'Orange? Est-ce que vous craignez une vente de participation?
Je le crains pas, c'est une possibilité. Aujourd'hui, rien ne le laisse penser, puisque ça n'a rien été annoncé dans ce sens. Ce que je peux dire, c'est que l'entreprise est suffisamment solide pour y faire face si ça doit se produire.
Un des dossiers chauds de ce moment, c'est le bras de fer qui vous oppose à TF1. La chaîne vous réclame 25 millions d'euros pour être diffusée sur vos box. On a reçu ici Gilles Pélisson, le patron de TF1. Vous avez espoir, comme le patron de TF1, il le disait dimanche dans le JDD, de trouver rapidement un accord satisfaisant?
Oui, j'ai cet espoir. Je suis convaincu que, vous savez, moi je pense que personne n'a intérêt à rentrer dans une espèce de conflit qui se ferait au détriment de nos clients respectifs, d'ailleurs les nôtres sans doute, mais j'allais dire surtout ce TF1, surtout les téléspectateurs.
Mais où vous en êtes? Parce qu'on a vu que vous avez sorti l'arme atomique vendredi, vous avez renoncé à prendre de la pub sur TF1, donc à leur donner de l'argent, à prendre de la pub chez eux. On voit bien que vous avez espoir, lui aussi, mais en même temps, les couteaux sont tirés.
Écoutez, on a l'espoir tous les deux d'y arriver. Je crois que c'est ça qui est important. Après, bien évidemment, c'est une période de tension, puisqu'on n'est pas d'accord avec leur point de vue de départ. Maintenant, on a la volonté commune d'y arriver. Je suis convaincu qu'on trouvera une solution.
Mais on en est où dans la négo? Assez loin, assez proche de la porte de sortie?
On discute.
Vous discutez toujours. Pour conclure, en ce moment, le gouvernement se penche sur la réforme de la SNCF. Comme vous, à l'époque, l'entreprise publique va être confrontée à la concurrence. Elle doit se réinventer. Le conseil que vous donnez à ces dirigeants, à Guillaume Pépi, ne me dites pas, je ne donne pas de conseil à mes collègues. Si vous connaissez bien tout ça, vous y êtes passé.
Il n'y a qu'une seule façon, à mon avis, de gérer une situation comme ça. C'est de considérer que l'arrivée de la concurrence est un aiguillon pour se transformer, pour s'améliorer en interne. Si on considère l'arrivée de la concurrence comme une catastrophe, alors là, c'est sûr que ça va être très, très difficile à gérer. Mais si on considère l'arrivée de la concurrence comme voilà, cet aiguillon qui va permettre peut-être à la SNCF de progresser dans un certain nombre de domaines, on peut en faire un vrai levier de transformation.
Donc de ne pas mettre les pieds sur le frein, mais au contraire appuyer sur l'accélérateur. C'est ça que vous...
Anticiper les choses d'abord, écouter, regarder tout ce qui se fait ailleurs, et considérer que les concurrents ne sont pas des ennemis, mais des gens qui vont faire progresser l'entreprise.
Justement, pendant votre mandat, il y a eu un quatrième opérateur qui a été autorisé. Est-ce que ça a été une bonne chose pour les Français, ou alors au contraire, ça a tout dérégulé ?
Écoutez, si on considère le fait que le prix de la téléphonie a quand même fortement baissé dans ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a été une mauvaise affaire pour les Français. Non, bien sûr, ça a été une bonne affaire. On a rendu du pouvoir d'achat. Le niveau global des services s'est plutôt amélioré. Est-ce que c'est lié directement au quatrième opérateur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne peut contester le fait que l'aiguillon de la concurrence est quand même quelque chose qui est extraordinairement utile pour faire progresser les organisations, les entreprises, même si c'est parfois douloureux.
Merci beaucoup Stéphane Richard d'être venu ce soir donc sur RTL. Merci à vous.